7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins et de voisines. Nous sommes en direct et ça fait du bien pour se parler du lundi au vendredi, du nord au sud. Et on commence l'année avec un petit vent d'optimisme. Y aurait-il comme une éclaircie dans le moral des jeunes en France? On décrivait la jeunesse française comme l'une des plus pessimistes de la planète. Est-ce que ça serait en train de changer? 78% des moins de 26 ans appréhendent désormais l'avenir avec confiance. Alors est-ce un effet Macron qui vient de fêter ses 40 ans et qui parle peut-être autrement à cette génération? Quelle est la place aussi de leur vision de l'avenir, le boulot, leur place aussi à eux dans la société? On va en discuter avec Marc Vanesson, délégué général d'un groupe de réflexion, un think tank, comme on dit, qui s'appelle Vers le Haut, dédié à la jeunesse et qui a publié justement il y a quelques semaines une étude, un sondage sur les jeunes et l'optimisme. Bonjour Marc Vanesson.
Bonjour.
Votre groupe de réflexion qualifié de centre droit. Sophie Caillot est également avec nous, 21 ans étudiante. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes présidente d'un parti politique qui s'appelle Allons Enfants, pas très connu. Hein. Un parti jeune.
Oui, tout à fait. On est un parti politique géré exclusivement par des jeunes de moins de 30 ans qui s'engagent pour de porter la voix de la jeunesse et redonner confiance aux jeunes dans la politique avec des valeurs européennes, innovantes, jeunes et participatives.
Voilà, et vous êtes là pour dire oui, on fonce, mais bien évidemment, vous êtes aussi lucide et on va parler de ce paradoxe à la fois entrepreneurial, mais pas naïf, lucide sur les réalités. Et pour parler de la jeunesse en Afrique, on sera également en ligne à Dakar avec Diary So de l'organisation Wati. Et chez vous, les voisins, dites-nous quel est l'optimisme pour les jeunes. Est-ce que vos conditions de vie seront meilleures que celles de vos parents? Appelez-nous dès maintenant pour nous parler de votre morale. Finalement, on vous donne la parole au 33 1 84 22 71 71. Sophia décroche le téléphone, elle est au standard et elle vous écoute et bien sûr, vous passez dans l'émission en direct dans les minutes qui viennent. A tout de suite, on compte sur vos appels. Alors, je vous lis quelques messages postés sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Germain, qui est à Kisangani, en République démocratique du Congo, il nous dit « On doit être optimiste, nous sommes obligés d'être endurants, d'être travailleurs ». Moi-même, je suis partie de chez mes parents à 12 ans pour aller étudier en ville. Ça a été très difficile, mais petit à petit, je me suis adaptée. Et dans 2 ans, j'espère devenir médecin. La jeunesse constitue l'avenir d'un pays. Voilà, ça s'appelle vraiment de la résilience, oui. Hein, ça, chez nos voisins sur le continent africain. Mais tous ne partagent pas le même point de vue. Hassan est à Niamey, au Niger. Être optimiste pour l'avenir de la jeunesse africaine serait hypocrite de ma part. Je ne vois pas de véritable projet de prospérité pour la jeunesse de mon pays. L'école, qui est censée tracer le premier pas vers la réussite, va de mal en pis. Et c'est vrai que quand on interroge les jeunes, tout de suite, ils font référence forcément à ce qu'ils vivent, c'est-à-dire la scolarité dont ils sortent ou leurs études.
Oui, et je pense que c'est pour ça qu'il faut justement écouter les jeunes. Parce que tous les jeunes, aussi bien en France qu'en Afrique que dans le monde, ont leur mot à dire. Ils ont une vision particulière qui est différente de celle des décideurs qu'on voit tout le temps dans les médias. Donc il faut les écouter parce qu'ils ont leur mot à dire et ils ont un avis pertinent.
Eugène est à Porto Novo, lui, au Bénin. Et lui, alors moi, je suis très optimiste pour mon avenir, mais je suis très pessimiste concernant le système éducatif. On mise sur les formations professionnelles que les parents ont du mal à payer. La plupart de la jeunesse est confrontée au chômage. Un tel système n'amènera jamais au développement. Ça vous rappelle quelque chose ?
Oui, ça c'est un point de vue qu'on retrouve beaucoup de jeunes qui sont optimistes pour eux, mais quand même assez pessimistes, ou en tout cas assez critiques sur l'état soit du système éducatif, soit des capacités à s'insérer dans le monde du travail. Donc c'est un vrai défi pour la société, comment être à la hauteur de cet optimisme individuel et éviter que ça soit une source de repli sur soi, parce que chacun pourrait être tenté de tracer sa route en disant « bon bah le monde s'effondre, mais moi je vais réussir de mon côté ».
Ou de grosses déceptions.
Ou de grosses déceptions aussi.
Si le collectif n'est pas à la hauteur des attentes.
Bah ça c'est un point qu'on voit dans cette enquête de Vers le Haut avec OpinionWay, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui en France nous disent bah si la France m'offre pas les capacités de réussir, bah je suis prêt à partir et j'ai confiance, j'ai tellement confiance dans mes capacités que je suis prêt à les exercer ailleurs.
Alors appelez-nous bien sûr pour réagir, optimiste ou pessimiste quant à votre avenir si vous êtes jeune. Appelez-nous au 33 1 84 22 71 71 et bien sûr vous nous suivez sur Facebook, sur Twitter et sur Instagram.
7 milliards de voisins. Et la fille, on est ensemble.
7 milliards de voisins.
Quand on sera 8 milliards, tu vas dire quoi?
J'ai refait le monde avec 7 milliards de voisins.
En fait, on est déjà 7 milliards et demi. Hein, et quand on sera 8 milliards, oh là. On accueille un auditeur bien nommé Janvier. Bienvenue Janvier.
Bonjour Emmanuel Mathilde et bonjour à tous les voisins et voisines.
Et bonne année à vous.
Ok, merci beaucoup à vous de même.
Janvier, vous êtes à N'Djamena, au Tchad.
Oui, je suis à N'Djamena, au Tchad.
Alors, vous êtes étudiant, pessimiste ou optimiste quant à votre avenir, à vous en tout cas déjà?
Ok, merci beaucoup Emmanuel Mathilde. Avant de donner mon témoignage, permettez-moi de dire que globalement au Tchad, les élèves et les étudiants n'ont pas l'engouement de poursuivre leurs études à cause de la mauvaise politique éducative qui se traduit par l'insuffisance des salles de classe, des amphithéâtres, des bibliothèques, des matériels didactiques et pédagogiques, et des cantines et restaurants universitaires ou scolaires.
Ouais. Mais aussi et juste précisons que vous sortez d'une très longue grève et que les cours ont repris très timidement et pas dans toutes les villes. Hein.
Oui, effectivement. Malgré tous ces éléments, moi, je reste optimiste parce que d'abord, l'école est la clé du développement et ça me permet de me réaliser dans la vie future. D'abord, j'ai une ambition de devenir quelqu'un qui est responsable dans la vie car l'école est la clé du développement et ensuite, mon optimisme s'exprime par la raison de participer activement à la prise de décision et au débat public. Je veux être un citoyen éclairé et qui connaît ses droits et ses devoirs dans la République.
Et comment vous comptez faire entendre votre voix, Janvier, alors?
Pardon?
Comment vous comptez faire entendre votre voix, participer aux prises de décision, alors que vous n'avez que 25 ans, dans un pays où on donne rarement la parole aux jeunes, finalement?
Oui, effectivement, mais malgré tout cet horizon sombre pour la jeunesse chrétienne, j'essaie de faire des idées positives pour pouvoir espérer un jour à l'autre s'intégrer dans la vie active, surtout en participant dans les organisations civiles et aussi porter ma voix plus loin pour défendre la jeunesse qui est bâillonnée et qui n'est pas vraiment prise en compte par les plus hautes autorités.
Et quel est votre rêve professionnellement, Janvier, puisqu'on est au début de l'année et qu'on se fixe de grands rêves, de grands objectifs?
Oui, actuellement, je suis encore étudiant à la faculté des sciences de l'éducation. Je suis au niveau 3. Bientôt, je vais finir avec le niveau licence. Et après la licence, je compte aussi pousser plus loin pour revenir, être comme un éducateur et aussi un leader citoyen pour pouvoir mobiliser les jeunes à prendre conscience de leur situation et de ne pas être pessimiste dans la vie parce que la vie n'est pas faite pour les pessimistes. C'est plutôt pour les optimistes malgré toutes les conditions qui ne sont pas réunies pour les études.
La vie n'est pas faite pour les pessimistes. Oh bah quand même, là vous êtes dur. Merci Janvier de nous avoir appelé, en tout cas futur éducateur et leader. Très bonne année à vous, bonne chance à N'Djamena au Tchad. Marc Vanesson, vous voulez réagir peut-être, Sophie Caillot?
Oui, je voulais juste dire que je trouve que ce témoignage est très, très touchant parce qu'on voit que c'est un jeune qui a des idées, qui veut les faire passer. Et c'est vraiment, je pense, la raison d'être, en tout cas de mon engagement, c'est qu'en tant que jeune, on a un message à faire passer et on demande à être écouté et à participer à la prise de décision. Donc voilà, j'encourage Janvier à continuer à exprimer son optimisme et ses envies pour son système éducatif.
Alors Sophie Caillot, bien sûr, vous allez réagir quant à l'étude qui a été menée, le sondage qui a été mené auprès de 1000 jeunes, Marc Vanesson de l'organisation du think tank Vers le haut. 1000 jeunes ont été interrogés, 1000 parents, 400 chefs d'entreprise. Quelles sont les questions que vous avez posées aux jeunes?
Alors c'est un baromètre qu'on fait chaque année depuis 3 ans. Donc ce qui est intéressant, c'est que là on a des enseignements sur la longue durée. On repose les mêmes questions. On les interroge sur 4 grands axes. Leur confiance dans leur avenir, leur confiance dans le système éducatif, leur confiance dans le monde professionnel et leur confiance dans la société et notamment dans le monde politique. Et on voit que ça c'est vraiment le point de départ. Il y a un optimisme, il y a une confiance dans l'avenir. Après... S'agissant du système éducatif, il y a des attentes très très fortes. les jeunes ont bien perçu, on l'entend aussi dans le propos de votre auditeur, que c'est vraiment la clé. C'est-à-dire que si on veut être à la hauteur de ses espérances, il faut un système éducatif performant, et qu'aujourd'hui, le système éducatif, il n'est pas à la hauteur de ses espérances, et il ne permet pas aux jeunes suffisamment de faire valoir leur espérance, leur ambition.
Alors, ce qui est intéressant, oui, je vous en prie.
Non, je disais, il y a un autre point très très fort dans ce sondage, dans cette étude, qui est valable en France, mais pas exclusivement, c'est le grand écart entre le monde de la formation, de l'éducation, et le monde professionnel. Avec un monde de l'entreprise qui ne fait pas beaucoup confiance aux jeunes, et ça on interroge des chefs d'entreprise qui nous l'avouent en quelque sorte, et puis des jeunes qui considèrent qu'ils ont difficilement leur place dans le monde professionnel. Et ce qui est intéressant, c'est que on interroge des chefs d'entreprise pour leur demander s'ils considèrent que le système de formation correspond à leurs attentes, à leurs besoins, et ils disent non dans une très très grande majorité. Donc là, on a vraiment un axe de travail très fort pour améliorer le système éducatif. Et je félicite votre auditeur de s'engager là-dedans et de viser par son engagement professionnel à l'améliorer.
Alors, les jeunes Français sont traditionnellement, dans toutes les études depuis des années, considérés comme la jeunesse pessimiste culturellement, je dirais.
Mais en fait, nous, ce qu'on montre dans cette étude, c'est pas forcément. C'est-à-dire que les Français en général sont souvent assez pessimistes, et ça reste le cas, hein, hélas. Mais les jeunes, globalement, sont quand même depuis longtemps assez optimistes sur leur propre avenir. Le problème, c'est qu'on, le dit très justement à nos enfants, on leur donne pas beaucoup la parole, on leur donne pas beaucoup l'occasion d'exprimer cet optimisme, cet enthousiasme qui est pourtant un moteur essentiel et qui peut être une source de renouvellement pour le pays. Donc c'est un des vrais enjeux. Alors, surtout que dans le champ politique, on les interroge là-dessus, les jeunes très majoritairement n'ont pas confiance dans le personnel politique actuel pour représenter cet enthousiasme, cette espérance, ces attentes.
Oui, et je pense qu'il y a un cercle vicieux aussi là-dedans, c'est que comme les jeunes ne se sentent pas représentés, ne se sentent pas écoutés, ils s'auto-censurent d'un côté et se sentent pas légitimes pour agir et pour porter leurs idées et leurs valeurs, alors qu'au contraire, on a besoin d'avoir la voix des jeunes et d'entendre un discours qui serait plus critique, peut-être notamment sur le système éducatif, parce qu'on sort tous, voire on est encore dans le système éducatif, dans les études, donc on a une vision qui est différente, et je pense qu'il mérite vraiment d'être écouté.
Alors néanmoins, avec le rajeunissement de l'Assemblée nationale, la féminisation aussi des députés, est-ce que ça a pesé dans l'optimisme des jeunes, ou c'est plutôt une situation de l'emploi qui s'annonce avec davantage d'embellie, même s'il ne faut pas se leurrer, aujourd'hui la situation de l'emploi pour les jeunes reste critique, le taux de chômage est près du double du pourcentage, toutes générations confondues, les jeunes sont deux fois plus au chômage.
Alors il y a une embellie, hein, donc comme nous on a un baromètre qui est annuel, on peut voir les évolutions, et effectivement là il y a une embellie. Nous, on fait quand même un lien avec le renouvellement politique, ce message.
Donc,
quand
l'effet
même.
L'effet Macron.
C'est vrai que ça joue quand même. Enfin, même
un
je parle
président
pas du fond des politiques,
mais
en termes d'image, voilà.
Qui avait aucune chance un an avant. Tout ça. Alors, on est dans le symbolique parce que dans les faits.
Alors, dans les faits, ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau électoral, les jeunes votent pas forcément Macron. Ils s'abstiennent très largement à l'élection présidentielle. Ils ont
Macron
beaucoup voté
par rapport à Mélenchon ou Le Pen.
Voilà. Donc, ce qui est intéressant là, c'est pas une adhésion à la politique, etc. Mais en tout cas, il y a quand même un vent d'air frais qui d'ailleurs peut jouer en faveur d'autres mouvements politiques, de renouvellement, d'aération. La preuve que quelque chose est possible,
c'est
qu'on
ça.
Peut faire
mais
bouger les lignes.
Mais une confiance qui n'est pas proportionnelle à la réduction du chômage
non,
chez les jeunes.
Non, pas du tout. Et alors ça, c'est un autre point très très important et sur lequel on insiste. Quand on parle de l'optimisme des jeunes, c'est une moyenne. Après, il faut regarder dans le détail. Et il y a quand même une partie de la jeunesse qui décroche. La jeunesse qui est en échec scolaire, la jeunesse qui a des difficultés d'insertion professionnelle, elle, non seulement elle n'est pas optimiste quant à son avenir, mais en plus, elle a beaucoup de défiance à l'égard des institutions, beaucoup de défiance à l'égard du système scolaire, du système éducatif. On voit bien que cette question de l'échec scolaire et de l'échec professionnel ou de la difficulté à s'insérer dans le monde du travail est un vrai marqueur pour des jeunes par rapport à leur vision du monde. Et si on ne travaille pas sur ces points-là, eh bien, une partie de la jeunesse qui peut tomber dans le radicalisme, dans le rejet, dans la violence, l'extrémisme, parce qu'elle va désespérer.
Juste pour revenir rapidement sur cet effet Macron, je pense qu'il faut très largement le nuancer sur l'adhésion qu'il suscite chez les jeunes, parce que comme vous l'avez dit, il y a eu 3/4 d'abstention chez les jeunes au deuxième tour des présidentielles. Donc on voit que c'est pas du tout une adhésion générale des jeunes, parce qu'il faut le reconnaître, Emmanuel Macron a certes apporté un vent de renouvellement, mais c'est un jeune qui pense comme un vieux. C'est pas, il représente pas les intérêts des jeunes. Les 18-25 ans, les 18-30 ans, c'est 15% de la population, mais seulement 3% des parlementaires. Donc voilà, faut nuancer ce constat quand même de renouvellement qui est selon moi plutôt un recyclage.
Voilà, Macron, un jeune qui pense comme un vieux. C'est Sophie Caillot, 21 ans, qui le dit, étudiante. On est en direct sur RFI en ce début d'année. On parle de l'optimisme chez les jeunes. Est-ce une valeur partagée chez vous, les voisins? Appelez-nous au 33 1 84 22 71 71.
7 milliards de voisins.
Oui, 7 milliards de voisins.
Tout le monde est voisin.
Oui, Zolo. Soyez les bienvenus.
Je ne sais pas si vous avez vu cette enquête parue par la Fondation Jean Jaurès là, tout récemment sur les fake news dans le contexte du projet de loi Macron pour lutter contre les fake news dans les médias. Les jeunes sont, on le sait, très très sensibles aux théories du complot. 21% des 18-24 ans adhèrent aux théories du complot. Et y compris pour les fake news les plus délirantes, un jeune sur 5 de 18-24 ans estime qu'il est possible que la Terre soit plate. Alors vous voyez, tout ça à remettre en perspective, c'est-à-dire qu'ils sont optimistes, mais ils sont aussi assez désinformés, non, finalement?
Alors, pour moi, c'est à mettre en lien avec une crise de l'éducation, justement, auquel on fait face en France, mais aussi dans beaucoup d'autres pays. Quand on a une difficulté à maîtriser les fondamentaux, quand on a, par exemple, une difficulté à lire un texte, à pouvoir le comprendre, comme on le voit dans les classements récents sur le système éducatif, et bah, du coup, on est beaucoup plus perméable à des interprétations simplistes, à des messages, à des slogans, à des... Donc si on veut vraiment travailler sur le fond là-dessus, là je sais qu'il y a en France cette idée d'un projet de loi sur l'information, bon, je ne me prononce pas sur le fond, mais je pense que ce n'est pas une réponse de fond. Si on veut vraiment travailler sur le fond là-dessus, c'est par l'éducation, par le travail sur le fait qu'on apprenne à bien lire, à bien écrire, à bien comprendre, à avoir un esprit critique. Voilà, c'est plutôt comme ça qu'on va réussir à armer les jeunes pour faire le tri dans le vrai et le faux de l'info.
Ouais. Sophie Caillot, sur toutes ces théories, toutes ces fausses informations qui circulent sur les réseaux sociaux, que vous lisez à longueur de journée, vous comme les autres.
Oui, et justement, je pense que c'est en effet à l'école et à l'éducation d'apprendre aux jeunes, enfin de les sensibiliser à ces informations auxquelles ils sont soumis tous les jours, parce que sur les réseaux sociaux, on n'a pas de, y a pas de filtre. On peut voir tout et n'importe quoi. Et si on n'essaye pas de diversifier ses sources, etc., on risque de se laisser convaincre par des fake news, justement. Donc c'est aussi, je pense, un des rôles de l'éducation, mais ça devrait être aussi un rôle des décideurs d'informer plutôt que d'essayer de convaincre et de soumettre à une idéologie préconçue. Il faut que les jeunes soient informés avant d'avoir à faire des choix qui soient politiques ou professionnels ou éducatifs. Il faut donner aux jeunes, mais pas que aux jeunes d'ailleurs, à l'ensemble des citoyens, l'ensemble des informations pour les mettre dans la capacité de faire des choix éclairés.
Ouais. Alors 58% des jeunes chômeurs estiment que leur vie ne correspond pas à leurs attentes et on peut les comprendre. Vous, Sophie Caillot, vous êtes étudiante, tout va bien pour vous. Alors, comment vous vous projetez par rapport à ces jeunes-là?
Tout va bien pour moi. Bah, pour l'instant, je suis étudiante, donc j'ai pas encore de contrat, de CDI. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a
tout
toujours.
De suite, vous parlez d'un CDI.
Oui, non, mais alors c'est vrai que quand on est étudiant, on a toujours, on sait qu'on va avoir à la fin de ses études le moment où il faudra trouver un travail. Et on le voit, et je crois que vous le faites ressortir dans votre étude, l'emploi stable recule énormément chez les jeunes. Donc on sait que la moitié d'entre nous, voire plus, devra passer par des contrats précaires. Donc moi, par exemple, je suis en stage aujourd'hui, je vais multiplier les stages avant d'avoir un emploi. Donc c'est vrai qu'on sent qu'on a une vision du travail et du monde du travail qui change. Après, c'est pas forcément négatif en permanence, parce qu'en faisant différents stages, on va avoir différentes expériences. Mais c'est vrai qu'on sent qu'il y a une précarité certaine.
Vous êtes la génération Uber, finalement?
Oui. On est une génération qui, je pense, a moins peur d'auto-entreprendre. Et c'est là-dessus aussi que je voudrais beaucoup insister. Il faut inciter les jeunes à entreprendre et à réaliser leurs projets.
Et bien justement, on en parlera. On entendra d'ailleurs le témoignage d'un jeune en deuxième partie d'émission. Vous restez avec nous. Les voisins et les voisines, vous pouvez bien sûr nous appeler. Vent d'optimisme ou pas sur la jeunesse, les jeunesses, où que vous soyez. Appelez-nous au 33 1 84 22 71 71. 7 milliards de voisins. Nous revenons dans un petit peu plus de 3 minutes, juste après le flash, en direct.
Milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez sur RFI. 7 milliards de voisins en direct. En ce début d'année, nous parlons de l'optimisme des jeunes. Pragmatique, réaliste, pas naïf quant aux difficultés de leur époque et pourtant optimiste. On en discute avec vous, Marc Vanesson, délégué général du groupe de réflexion Vers le haut, dédié à la jeunesse. Et vous avez publié il y a quelques semaines une étude, un sondage. Je le redisais, je redonne quelques chiffres. 74% des jeunes estiment que leur vie actuelle correspond à leurs attentes hein, quand même. 78% voient leur avenir de manière plutôt optimiste. Sophie Caillot, vous êtes à l'image de cette jeunesse. Vous avez 21 ans, vous êtes étudiante et présidente de Allons Enfants, un parti jeune, revendiqué comme tel d'ailleurs. Hein. Si on a 50 ans, on peut adhérer.
On peut adhérer, mais on ne sera pas membre actif et pas candidat. Ça, c'est certain.
Et vous avez d'ailleurs quelques élus locaux dans des communes.
Oui, on a des conseillers municipaux en banlieue parisienne.
À Saint-Cloud, ouais. Notamment. Et chez vous, les voisins, quel optimisme pour les jeunes? Vos conditions de vie, pensez-vous qu'elles seront meilleures que celles de vos parents? Appelez-nous où que vous soyez dès maintenant pour nous parler de votre morale. 33 1 84 22 71 71. On est en ligne avec Diariso, 28 ans, du think tank Wati, qui est un groupe de réflexion citoyen basé à Dakar. Bonjour Diariso.
Bonjour Emmanuel.
Alors, il faut tout de même rappeler le contexte dans lequel nous vous faisons intervenir à l'antenne en direct. C'est que le Sénégal vit deux journées de deuil national après l'assassinat de 13 jeunes dans une forêt de Casamance dans le département de Ziguinchor, au sud de votre pays. C'est une attaque qui est liée probablement à l'exploitation du bois. Mais au-delà de cette tragédie, dans un pays en paix comme le Sénégal, comment les jeunes voient, imaginent leur avenir ?
Je pense que fondamentalement, les jeunes sont optimistes. Hein. Ils ont envie d'y arriver. Ils ont une idée claire à peu près de là où ils veulent aller. Maintenant, la grande question, c'est comment faire pour y arriver. Et pour la plupart des jeunes, nous sommes confrontés à un problème d'encadrement, d'orientation, à la fois au niveau étatique, au niveau familial, social, mais surtout au niveau étatique. Je veux dire, aujourd'hui, un jeune Sénégalais qui se lève pour entreprendre, il est laissé à lui-même, fondamentalement. Mais par contre, malgré toutes ces difficultés-là, les jeunes font preuve d'énormément d'optimisme. Hein. Ils sont créatifs, ils ont un esprit de leadership, d'intelligence extraordinaire. Et je veux dire, par rapport à cette question-là, que nous ne parlons pas seulement de jeunes avec des diplômes, avec des niveaux d'études assez poussés. Il y a des jeunes qui n'ont pas fait les bons, qui n'ont pas fait d'école et qui font preuve d'un esprit entrepreneurial extraordinaire. Ils sont aujourd'hui mécaniciens, ils sont tailleurs, ils sont commerçants, ils sont laveurs de voitures. Et ils sont dans la réalité. Ils savent qu'ils ne peuvent rien attendre de l'État, de la famille ou de la société, et qu'ils prennent leur destin à main, même s'ils sont plus souvent confrontés à des problèmes de management de leur entreprise par manque d'expérience. Je pense qu'ils sont fondamentalement optimistes et croient en eux.
Et d'ailleurs, vous parlez de tailleurs, de mécaniciens, vous parlez d'eux comme des entrepreneurs. Il y a encore quelques années, on aurait dit que ce sont de simples artisans.
Non, aujourd'hui, il faut les considérer comme des entrepreneurs. Et ils ont encore plus de mérite qu'ils ne reçoivent de l'aide de personne. Ils croient qu'en eux, ils partent de zéro, ils commencent à épargner. Et on en voit parfois qui, au début, avec un atelier, ils commencent à faire de la décentralisation de plus en plus de leur activité. Je pense qu'ils sont très entrepreneurs et il ne faut pas négliger cette capacité-là de la jeunesse
et qui postent sur leur compte Instagram pour parler de leur boîte, hein, en tant que mécanicien ou tailleur.
Bah oui, je pense que l'utilisation du numérique aujourd'hui a introduit dans la jeunesse africaine la capacité à se dire que nous sommes dans un mouvement, nous sommes dans un système qui va de l'avant, nous ne sommes pas forcément moins intelligents que les autres. Si nous avons les mêmes moyens dont ils disposent, nous allons faire des choses extraordinaires. Et aujourd'hui, ils utilisent WhatsApp, par exemple, pour mettre en avant un produit à travers le photo de profil et le statut pour se voir des commandes. Je pense que ça, c'est extraordinaire. Cette capacité à manipuler les impics au Sénégal et en Afrique en général permet aux jeunes d'avoir un optimisme, un vent de... je crois en moi et je vais y arriver.
Je crois en moi, je vais y arriver. Malgré toutes les difficultés, elles sont nombreuses, on va y revenir. Marc Vanesson.
Ce qui est intéressant, c'est que l'année dernière, en début d'année, il y a une enquête qui est sortie de Ipsos au niveau international, qui sont les jeunes dans beaucoup de pays, dans les pays du Nord, les pays du Sud. Et sur cette question de l'entrepreneuriat, il y avait 69% des jeunes interrogés qui disaient « mon rêve, c'est de créer mon entreprise ». Et quand on regarde la différence entre les pays du Nord et les pays du Sud, c'est dans les pays du Sud que cette proportion était la plus forte. Il y avait 86%, c'est-à-dire presque 9 jeunes sur 10 dans les pays du Sud qui disent « mon rêve, c'est de créer mon entreprise, mon business ».
Un jeune sur 3 quand même en France, envisage de créer son entreprise.
Ouais.
C'était inexistant il y a une dizaine d'années, pratiquement.
Ouais. Ouais, non, c'est vrai que ça fait partie des quand on regarde les évolutions sur le long terme, cette question de l'entrepreneuriat fait partie des vraies évolutions. Après, ce qui est intéressant de voir, c'est que le cadre institutionnel n'a pas pris en compte ces évolutions. Typiquement, sur la facilité pour accéder à un logement, ça reste toujours très compliqué tant qu'on n'est pas salarié avec un CDI bien identifié, pour accéder à un prêt bancaire. Donc tout le système autour de ces aspirations n'a pas pris en compte les évolutions profondes des jeunes.
Alors là, vous citez les difficultés pour les jeunes en France, hein, et elles existent, hein, il faut bien l'expliquer aux jeunes, aux jeunesses en Afrique. Sur le continent africain, Diary Sao, vous nous disiez tout à l'heure que les jeunes étaient incroyablement optimistes. Il faut rappeler que il y a un taux d'échec au bac, ou plutôt un taux de réussite au bac qui est en dessous de 30%, si je ne me trompe pas, qu'on peut rester chez soi une année après avoir obtenu son bac avant d'avoir une place à l'université. Comment vous expliquez, Diariso, finalement, l'optimisme malgré ces barrières, malgré ces freins? Vous le disiez, quand on veut être entrepreneur et qu'on est jeune, on est complètement livré à soi-même.
Ben, je pense que c'est justement une réponse par rapport à ces problèmes structurels-là. Lorsqu'on se rend compte que l'éducation, ça ne marche pas, lorsqu'on se rend compte que rien n'est fait pour pouvoir promouvoir les jeunes, pour pouvoir les insérer professionnellement. Aujourd'hui, je pense que la plupart des chômeurs sénégalais, ils ont un bac plus 4 en moyenne, hein, à mon avis, je pense. Et lorsqu'on se rend compte de cette réalité-là, on a tendance justement, vous le disiez tout à l'heure, à se désigner, comme disait l'auditrice, qu'on est obligé d'être endurant en Afrique pour pouvoir s'en sortir. Donc, on a tendance à se dire, OK, le système dans lequel je devais m'insérer pour pouvoir m'en sortir ne marche pas. Je suis obligée de faire preuve de créativité, de puiser à l'intérieur de moi-même pour voir qu'est-ce que je peux faire par rapport à ça. Et c'est ce qui explique ce taux élevé d'entrepreneuriat en Afrique de plus en plus.
Ouais. Et pas seulement au Sénégal, hein, puisque à l'échelle du continent, 60% des 18-34 ans en Afrique se disent optimistes pour l'entrepreneuriat et pensent qu'ils ont les compétences nécessaires pour créer leur entreprise. Ça, c'est un autre problème, Sophie Caillot.
Oui, c'est ce que je voulais dire pour rebondir sur ce que vous disiez, Marc Bonesson. On a l'impression aussi que les jeunes ont l'envie d'entreprendre. Comme on le disait avant, on est la génération Uber, donc la génération qui sait qu'elle est capable de faire des choses de ses 10 doigts, mais parfois on n'a pas toutes les clés en main pour le faire. Et je pense que c'est aussi en ça que les décideurs doivent écouter les jeunes sur les attentes qu'ils ont du système éducatif. Et ce qu'on attend maintenant de l'école, c'est de nous apprendre aussi à entreprendre, nous apprendre à gérer un business, faire des cours de compta par exemple, ça n'existe pas au lycée, ça, à part dans certaines filières. Donc il faudrait demander aux jeunes ce qu'ils veulent apprendre et ce dont ils ont besoin pour monter justement leur entreprise ou tout autre projet professionnel.
Ouais, étudier la comptabilité. Diary Sao, vous avez étudié en master en France, vous avez vécu aussi un an aux États-Unis, vous êtes rentrée au Sénégal, portée par un vent d'optimisme personnel pour vous, Diary?
Oui, fondamentalement. Je pense que lorsqu'on compare le jeune en France, aux États-Unis et au Sénégal, la différence c'est que vous allez en France, vous allez aux États-Unis, le jeune il est conscient très tôt que son avenir lui appartient, quoi. Qu'il est obligé de faire quelque chose pour pouvoir se prendre en charge, qu'il est rendu autonome très tôt. Je veux dire, vous allez par exemple aux États-Unis, vous savez qu'après le lycée, si vous devez aller à l'université, ça coûte excessivement cher. Donc vous êtes obligé de le collège à commencer à épargner ou bien à discuter avec vos parents pour voir est-ce qu'ils vont faire un prêt après vous rembourser quand vous allez travailler. Ce qui n'est pas le cas forcément ici en Afrique ou au Sénégal. On a tendance à laisser les jeunes étudier jusqu'à ce qu'ils finissent son master 2. Ça lui fait quoi, 24 ou 25 ans pour commencer à chercher un stage ou commencer à accumuler de l'expérience. Je pense qu'il faut renverser cette tendance-là. Il faut arriver à un niveau où le jeune, déjà à l'âge de 12 ans, à l'âge de 13 ans, 14 ans, 15 ans, il sait que son avenir lui appartient, il sait qu'il est obligé de commencer à faire quelque chose s'il veut y arriver fondamentalement. Et moi, je suis revenue au Sénégal parce que je pense que l'avenir est ici. Je pense qu'on ne peut rien faire sans son pays fondamentalement. J'ai eu la chance d'étudier, d'acquérir ce que j'ai acquis en France, à la fois de l'expérience au niveau scolaire et de l'expérience au niveau de la vie. Maintenant, il faut revenir malgré les conditions difficiles et repartir à zéro avec sa société et y croire.
Ouais. Merci Diarisso d'avoir été en ligne avec nous du think tank Wati. À retrouver bien sûr sur internet hein, toutes vos publications, tous les débats aussi qui sont organisés avec la jeunesse. Merci d'avoir été en direct de Dakar Diary.
Je voudrais juste dire quelque chose par rapport à Wati et dans ce sens-là. Je dis que Wati donne la parole aux jeunes. On est très au fait de ce qui se fait. On leur donne la parole par rapport à leur avenir. Qu'est-ce qu'ils en pensent, qu'est-ce qu'ils appréhendent, qu'est-ce qu'ils pensent des politiques publiques qui sont mises en place, qu'est-ce qu'ils pensent des orientations qui sont faites. Et nous recevons énormément de contributions de la part des jeunes.
Un groupe de réflexion citoyen, donc engagé. Merci à vous, Diary. Marc Vanesson.
Non, c'est intéressant. Ça fait plusieurs fois qu'on parle de cette question du rapprochement entre l'école et le monde du travail et le monde de l'entreprise. Nous, dans le sondage, on a interrogé les jeunes, les parents, les chefs d'entreprise, et quand on leur demande quels sont les acteurs qu'il faudrait davantage impliquer dans le système éducatif, on a testé les syndicats, les associations de parents, les associations familiales, les parlementaires, enfin voilà, on a cité beaucoup d'acteurs, et l'acteur qui devrait le plus s'investir dans le système éducatif pour l'améliorer aujourd'hui, selon les différentes cibles qu'on a sondées, c'est vraiment l'entreprise. Et donc il faut trouver un moyen de mieux lier ces deux mondes sans considérer que l'école c'est uniquement pour former des salariés, parce que c'est pas ça, l'éducation c'est pas que ça, mais en tout cas de mieux travailler sur cette articulation. Et par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, je pense qu'il y avait quelque chose de très intéressant sur un défi majeur pour l'éducation aujourd'hui à l'échelle mondiale, c'est la question de la marchandisation de l'éducation. Il y a un risque aujourd'hui, on le voit dans beaucoup de pays, que l'éducation devienne un marché comme un autre.
Avec une privatisation
des
établissements, hein, c'est-à-dire que ça coûte de plus en plus aux familles et moins à l'État.
Voilà, et avec des systèmes d'endettement très lourds pour les jeunes qui du coup privent beaucoup de cette capacité à se former, à s'éduquer. Ça, c'est vraiment un défi très très fort à l'échelle internationale où on voit qu'il y a différents modèles qui sont en opposition, et peut-être que la sphère francophone a quelque chose à apporter là-dessus.
Et en même temps, là-dessus, les jeunes disent majoritairement dans votre étude qu'ils sont bien conscients que c'est pas l'école qui va réduire les inégalités sociales.
Oui,
c'est assez terrible.
Et en même temps, ça reste quand même le principal moyen de le faire. Enfin, ils sont peu confiants dans la capacité à l'école de le faire aujourd'hui, mais ils savent qu'il n'y a pas beaucoup d'autres acteurs qui peuvent œuvrer.
Et puis, ils n'ont pas très confiance aussi envers les employeurs.
Non.
Beaucoup de défiance vis-à-vis des patrons.
Oui, et ça, c'est sans doute lié à l'expérience vécue, hélas.
29% seulement en confiance dans les patrons.
Oui, mais c'est vrai que pour les jeunes aujourd'hui, cette question de l'insertion professionnelle est extrêmement compliquée. C'est-à-dire que l'accès à un emploi stable est de plus en plus tardif, alors même que la durée d'études s'est pas allongée démesurément ces dernières années. Et donc, il y a tout un sas entre la sortie des études et l'accès à un emploi stable qui est pas bien géré aujourd'hui en France et qui explique que beaucoup de jeunes soient très défiants vis-à-vis de l'entreprise.
Oui, dans votre étude, j'ai vu que vous disiez que seulement un chef d'entreprise sur cinq considère que l'enseignement est adapté aux enjeux du marché du travail. Et ça, c'est vrai que c'est quand même c'est un problème. Il faudrait repenser le système éducatif en interrogeant aussi bien les patrons, les entrepreneurs, les chefs d'entreprise, que les jeunes, et essayer de faire quelque chose, de faire une synergie de toutes ces idées pour avoir un système qui s'adapte au monde du travail.
Vous nous appelez au 33 84 22 71 71. On accueille un auditeur, Alexandre, 22 ans, qui est en France. Bonjour Alexandre.
Bonjour.
Nous vous écoutons, Alexandre.
Moi je disais justement que je suis un peu optimiste, mais pas, par exemple, il y a une de vos auditrices là qui parlait, qui disait que lui pense que l'Afrique, ça pourrait aller au mieux. Moi, personnellement, j'ai confiance en l'avenir des jeunes Africains comme moi, par exemple. Mais le système politique, du tout, je ne suis pas optimiste sur le système politique et tout. Mais je sais que nous, jeunes Africains, quand on veut, on peut. Ben, moi, déjà, je me considère comme un exemple, vu mon parcours un petit peu. Et puis, depuis que je suis en France, je suis un peu plus, de plus en plus optimiste en voyant comment les choses avancent.
Vous êtes originaire de la Guinée, hein, c'est bien ça, c'est ce que vous avez dit, Guinée-Conakry, c'est ce que vous avez dit au Standard ?
Oui, Guinée-Conakry, oui.
Et vous êtes en France, vous travaillez ?
Oui, je travaille, puis je suis des études en même temps.
D'accord, vous travaillez comme aide-soignant, hein, c'est bien ça ? Et en même temps, vous essayez de faire valider votre bac ?
Justement.
Ouais. Comment vous voyez votre avenir, alors ?
Personnellement, je vois mon avenir un peu... Je pense que j'ai confiance en l'avenir. Je pense que les choses vont avancer de mieux en mieux. Ça pourrait pas être plus pire. Quoi.
C'est ça. Ça peut pas être pire que ce que vous avez vécu. C'est ça, finalement.
Voilà, c'est ce que je me dis chaque jour. Voilà, finalement, je suis optimiste.
Vous êtes arrivé comment en France, sans indiscrétion, Alexandre ?
Par la mer et tout. Je suis passé par le Sénégal, la Mauritanie, le Maroc, et après la Méditerranée, et puis l'Espagne, et puis la France.
Ouais. Et comment ne pas être optimiste, vu votre histoire, Alexandre ?
Voilà.
Marc Vanasson.
Pendant les cours, j'ai des amis français, c'est ce que je les dis souvent. Quand ils doutent, je dis, mais honnêtement, ça peut pas être pire, ça peut aller que mieux, de mieux en mieux. Et puis on a un président qui est jeune, et puis honnêtement, c'est tout ce qu'il dit, moi je pense qu'il est un peu au point avec les problèmes de la jeunesse, même si tout n'est pas parfait.
Ouais, vous avez dit, on a un président qui est jeune, hein, Alexandre, ça y est, vous êtes français.
Moi je me considère un peu comme ça, on m'a bien accueilli, on a été tout le temps bien généreux avec moi, et puis tous mes collègues sont français. Même si je ne suis pas français de nationalité, mais honnêtement, je me considère comme bien adapté.
Ouais. Marc
bien
veut adapté, intervenir.
Non, je ne sais pas si c'est votre parcours, mais on a réalisé une enquête qu'on a publiée il y a quelques mois sur les mineurs non accompagnés, donc ces jeunes qui arrivent en France sans famille dans des situations souvent très compliquées. Beaucoup de ces jeunes qu'on interrogeait, c'était en France, en Espagne et en Italie, nous disaient, nous on est en France, là, ou en Europe, on va se former pour après repartir dans notre pays et essayer de lancer notre entreprise, profiter de tout ce qu'on a appris pour développer notre pays. On a trouvé ça très intéressant parce que c'est pas quelque chose auquel on pense
spontanément. C'est le cas de Diarisso au Sénégal qui est rentré. Alors Alexandre, juste en un mot, est-ce que vous envisagez un jour de revenir dans votre pays, en Afrique, en Guinée ?
Personnellement, pour l'instant, je ne l'envisage pas du tout. Après, on ne sait pas ce que l'avenir peut nous réserver. Mais personnellement, pour l'instant, pas du tout.
En tout cas, merci pour votre optimisme, Alexandre. 22 ans en France depuis 2 ans et bravo pour votre parcours. Vivre de sa passion et créer son activité, on en a parlé. On a parlé de l'entrepreneuriat chez les jeunes. Dans quelques instants, je vous propose le portrait d'un jeune champion de France de la mémoire. Et il forme désormais les jeunes à améliorer leur technique de mémorisation, évidemment, pour réussir leurs études.
7 milliards de voisins.
Et aujourd'hui, on dit quoi ?
J'ai mis le nom 7 milliards. Parce que nous sommes 7 milliards d'habitants sur la Terre et voisins. Parce que nous sommes tous des voisins.
Tout de suite, reportage avec un jeune passionné, athlète de la mémoire. C'est comme ça qu'il se définit. Sébastien Martinet, 30 ans. Il est même le numéro 1 français au championnat du monde de la mémoire. Oui, ça existe. Je ne connaissais pas ces championnats, moi, personnellement. Et aujourd'hui, il est devenu coach en méthode mémotechnique. Il a su faire de sa passion donc un gagne-pain. Il propose des formations, notamment à Paris. Notre reporter Charlie Dupiot a assisté à l'une d'entre elles, baptisée « Booster sa mémoire pour réussir ses études supérieures ». Donc apprendre à apprendre, c'est l'idée. Et au tableau, face à une dizaine d'élèves, étudiants en droit pour certains, pour d'autres lycéens, Sébastien Martinez sautille sur place entre chaque explication, tout sourire. Difficile pour notre reporter d'ailleurs
l'honneur de le suivre.
C'est parti pour notre mapathlon. Pom, pom, pom. Attention, le 3, 2, 1, go!
Mapper, mapathlon, segmenter, structurer, c'est un vocabulaire particulier quand même.
Oui, oui, on a notre jargon. Hein.
Et qu'est-ce qui vous enthousiasme autant, vous, dans la mémoire?
Mes spécialités, c'était les sciences, donc maths, physique. Donc j'ai fait une prépa scientifique, j'ai fait une école d'ingénieur. Par contre, lorsqu'on me demandait d'apprendre par cœur du français, de l'anglais, de l'histoire, j'étais plus là, quoi. Et donc en 2009, j'étais en école d'ingénieur, je me suis dit, mais c'est pas possible, il doit exister des méthodes pour pouvoir apprendre. Notamment, c'était les langues, c'était l'anglais que je voulais apprendre. Et j'ai tapé sur internet, j'ai découvert qu'il y a eu des ouvrages, j'ai découvert qu'il existait des championnats de mémoire.
Et par exemple, pour apprendre un mot d'anglais.
Alors, en anglais, alors quel mot on peut prendre? Tiens, brain, il y en a qui me disent brain.
Cerveau.
Cerveau, voilà. Donc, si on connaît pas ce mot, on va jouer avec les sonorités brain. On se dit, tiens, brain, on peut. Brin, si on prononce à la française, un brin, bah tiens, un brin d'herbe. On peut imaginer un brin d'herbe et un cerveau, donc on imagine tous un cerveau, je pense. Et à l'intérieur, il y a de l'herbe qui pousse. La prochaine fois qu'on est confronté à ce mot, brain, on dit, tiens, brain, on l'a associé à quoi? À quoi me fait penser ce mot? Et on dit, ah oui, un brin d'herbe, ce brin d'herbe, il pousse à quel endroit? Ah oui, c'était sur un cerveau.
Donc, même si l'association est loufoque, en fait, on va s'en souvenir.
Tout le jeu, c'est d'associer.
Et donc, vous avez été convaincu par cette méthode pour l'anglais?
Et donc, j'ai quand même eu mon diplôme d'ingénieur, j'ai travaillé un peu dans l'énergie solaire. Et très vite, donc en 2012, je me suis dit, j'en ai marre, il faut plus de personnes connaissent ces méthodes, et donc j'ai commencé à le transmettre. Et je suis allé voir des championnats de mémoire, enfin j'ai surtout assisté, je me suis inscrit. Donc c'était à Londres en 2014, mes premiers championnats, et là c'était génial. Enfin je me suis fait exploser, quoi. Je me suis pris une grosse claque, et ça m'a vraiment fait prendre conscience que la mémoire, c'est quelque chose qui devait s'entraîner tous les jours, et qui demandait de l'endurance, donc je me suis entraîné. En 2015, du coup, je suis devenu champion de France.
Vous avez été champion de France en 2015, vous participez régulièrement à des championnats du monde. Comment ça se passe en fait? Quelles sont les épreuves pendant ces championnats?
Par exemple, le dernier championnat, c'était en décembre à Jakarta.
En Indonésie.
En Indonésie, oui, du coup. Ça dure 3 jours et sur 3 jours, on fait 10 épreuves. Donc c'est toujours les mêmes épreuves. Pour vous en donner certaines, donc il y a des épreuves où il faut mémoriser des listes de chiffres. Là, par exemple, on a une heure. Et en une heure, vous avez des lignes de 40 chiffres, et vous mémorisez un maximum de chiffres en une heure.
Il y a aussi une épreuve qui est assez amusante, c'est qu'il faut retenir l'ordre de plusieurs jeux de cartes, d'ailleurs de 52 cartes, qui sont évidemment dans le désordre. Et là, pour cela, on peut inventer des histoires, en fait, avec les cartes.
Complètement. Alors, il y a deux épreuves sur les cartes. Un, c'est un sprint, donc c'est un jeu le plus rapidement possible. Et un, c'est une épreuve d'endurance, c'est le plus de paquets, et là, c'est en une heure. Le principe, c'est qu'il faut au préalable associer chaque carte à une association. Parce que lorsqu'on vous dit 3 de pique, ça parle pas, quoi. C'est 3, un pique. Et l'idée, c'est de le transformer. Facilement, par exemple, moi, la dame de cœur, par exemple, c'est ma chérie. Le 3 de pique, moi, c'est une pomme. Ben, j'imagine que ma chérie, elle est en train de manger une pomme. On fait plein de mini-histoires comme ça. Et pour vous dire, le record du monde dans cette épreuve-là, c'est autour de 15 secondes. Donc en 15 secondes, il regarde toutes les cartes.
Donc 52 cartes.
52 cartes. 52 cartes en 15 secondes, il les pose. Et après, il a 5 minutes pour prendre un nouveau paquet et le remettre dans le même ordre. Alors on va faire un maximum d'associations capital-pays avec des histoires. Il n'y a plus qu'à créer une petite histoire entre les deux pour les connecter.
On fait l'Afrique. Enfin, ouais, on se répartit les...
Ouais, vous faites l'Afrique.
Ah. Vous faites quoi?
Vous faites l'Asie.
Alors.
Moi, par exemple, pour Cameroun, j'avais Camerou. Un Camerou, et la capitale, donc c'est Yaoundé, donc yaourt.
Camerou, ça veut dire drogué.
Un drogué, ouais.
Un drogué avec les cheveux roux.
Donc tu l'imagines comme ça, et après tu te fais ton histoire. Donc par exemple, bah, le drogué roux, Camerou, qui mange un yaourt.
Après, il faut juste que tu te rappelles que yaourt, ben, c'est Yaoundé.
Yaoundé.
Gabon, c'est facile, c'est Libreville. Parce que le Gabon, eh ben, il va dans la ville libre, quoi.
Comment être optimiste quand on a autant de mémoire?
On pense que d'avoir une bonne mémoire, on n'oublie plus rien. Mais non, on n'est pas forcément rancunier lorsqu'on a une bonne mémoire. Oui, aujourd'hui, c'est prouvé, par exemple, que les gens qui sont dépressifs, ils ont une moins bonne mémoire à court terme. Et aujourd'hui, il y a aussi des... Alors, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est des neurologues. Pour avoir ce qu'on appelle la neurogénèse, c'est-à-dire la création de neurones au niveau de notre cerveau, il y a plein de facteurs qui sont propices à ça. Et un des facteurs, c'est juste d'être heureux. Donc si vous avez une bonne mémoire, déjà, essayez de voir le verre à moitié plein. Donc d'être optimiste.
Voilà, ça s'appelle Optimiste, Sébastien Martinez. Marc Vanesson, votre étude montre bien l'optimisme des jeunes en France. Mais alors, les parents, les vieux, qu'en disent-ils?
Eh ben, c'est un peu là le problème. C'est-à-dire que les parents, eux, sont majoritairement pessimistes et sont très majoritaires à penser que leurs enfants auront une vie plus difficile que la leur. Et donc ça, c'est une vraie difficulté, d'une part parce que on sait bien que dans l'éducation, ça a été dit là, juste à l'instant, la confiance en soi, la façon d'appréhender la vie est déterminante. Et donc comment les parents peuvent transmettre la confiance en soi quand eux-mêmes ne l'ont pas et quand eux-mêmes sont très inquiets. Donc ça, c'est un vrai défi aujourd'hui pour le système éducatif. Et puis, ça plaide pour faire davantage confiance aux jeunes, puisqu'on a besoin de ce renouvellement, de ce vent de fraîcheur, etc. Et donc, si les adultes sont plus pessimistes, peut-être qu'ils devraient davantage laisser la place à ce vent d'enthousiasme des jeunes.
Notamment en politique, laisser la place aux jeunes, écouter les jeunes. On n'en peut plus d'avoir tout le temps les mêmes personnes pessimistes qui nous décrivent que la France va mal, la croissance, etc. Nous, on a des idées, on a l'envie de faire changer les choses, alors écoutez-nous et laissez-nous parler dans le débat public.
Les élections européennes en 2019, c'est quelque chose que vous regardez de très loin ou pas pour,
non,
votre
de très
jeune parti
de très près, parce que c'est dans un an et demi, ça va arriver très vite, donc on va très vite monter une liste avec l'objectif d'avoir un député au Parlement européen en 2019.
Ouais, donc là, ça sera un député en culotte courte ou...
Ce sera un député de moins de 30 ans.
Mais avec quels objectifs, quelles propositions concrètes parce que votre parti mise sur une appartenance générationnelle, ça ne fait pas une proposition ou un programme.
Non, bien sûr, on a des idées, on a des valeurs, on est pour l'innovation, pour un mode de production plus durable, on est pour une éducation plus égalitaire.
L'environnement, donc, évidemment.
Voilà, on a des grands thèmes qui nous définissent et qui définissent un socle de valeurs communes sur lesquelles on va construire un programme.
Eh bien, merci à vous tous. Marc Vanesson, l'étude de votre think tank Verlo est à retrouver sur Internet. On va donner le site.
www.verlehaut.org.
Et on va mettre le lien. Vous avez aussi publié Tous éducateurs, publié chez Bayard. Merci à vous, Sophie Caillot, Allons Enfants, Parti politique jeune. N'oubliez pas, les voisins, que vous pouvez bien sûr réécouter nos émissions sur l'appli RFI Pure Radio, rubrique magazine, et nous retrouver sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram. Merci à toute l'équipe, Cécile Lavolo, Sophia Romain Dubrac. N'oubliez pas que vous pouvez aussi nous parler en nous écrivant à 7 milliards@rfi.fr.